C'est la rançon du succès. Nous sommes littéralement débordés. Je voudrais m'excuser pour l'organisation. Nous penserons la prochaine fois à une salle plus grande. Je suis très heureux et très ému d'accueillir ce soir Alain Finkielkraut, maintenant qu'il est en voie de prompt rétablissement. On peut dire qu'il a traversé une période difficile et, si je ne me trompe, c'est sa première apparition publique. Elle est pour vous, elle est pour nous.
Je la trouve changée.
Pendant cette période d'absence, on lui a envoyé des mots de temps en temps pour lui dire combien vous étiez nombreux à vous manifester, parce que vous avez été très nombreux et constamment à vous manifester pour prendre des nouvelles de lui, pour lui dire aussi combien il nous manquait, pour lui manifester à la fois votre gratitude et votre soutien. Aussitôt que nous avons fait passer l'annonce à la radio, immédiatement, le téléphone n'a pas arrêté. Tout se passe comme si vous attendiez le moment où on annoncerait cette soirée pour immédiatement répondre présent. Il y a beaucoup de monde dehors encore, je dois vous le dire. Il y a beaucoup de monde qu'on a dû refuser depuis quelques jours parce que c'était complet. Voilà, je voulais que Alain Finkielkraut se rende compte que ce que je lui racontais au téléphone est la pure vérité, qui vive nous a manqué pendant cette période. Ceux qui parlaient avec Alain pendant cette période, comme il en a ou moi, savent qu'il ne s'est pas exprimé publiquement, mais sa capacité d'indignation, sa puissance d'indignation, la vigilance qui caractérise ses émissions, sans parler de son courage et de son talent, n'ont pas bougé d'un iota. Je voudrais lui redire notre reconnaissance, notre amitié fidèle depuis tant d'années, qu'il nous accompagne et que nous l'accompagnons, et lui dire merci d'être là ce soir.
Merci, Seigneur.
Avant de céder la parole à Ilana Sicurel, je voudrais saluer tous ces fidèles qui sont là ce soir, à commencer par son fils Thomas. Salut Thomas.
Il adore ça.
Le noyau de fidèles, Elisabeth de Fontenay, Béatrice Berelovitch, Michel Zawi, qui a toujours été très proche, qu'on a entendu cette semaine à la radio, qui a fait un livre magnifique sur sa mémoire des procès Barbie, Touvier, Papon, que je salue. Jacques Tarnero, qui officie depuis quelque temps à la place d'Ilana Sicurel et qui maintient la tradition de qui vive, le professeur Leroy Beaulieu qui est ici avec nous, Mohamed Sifawi qui s'est annoncé, je ne sais pas s'il est dans la salle, s'il veut bien se lever, en tout cas nous l'attendons. Il viendra. Merci à vous, Ilana.
Merci, Shlomo. Alors, à mon tour de vous saluer, de vous dire avec quel plaisir et même quelle émotion, mais je ne vais pas en rajouter parce que Shlomo a déjà exprimé beaucoup de choses en notre nom à tous. Donc, avec quelle émotion je vous accueille ici à l'espace Rachi. Pour ce qui vive revient le temps d'un soir, qui ressuscite un rendez-vous qui nous a réunis pendant 5 ans, de 2001 à 2006, tous les dimanches, de 13h30 à 14h. Vous avez été très nombreux à vouloir participer à cette soirée, et vous qui êtes là, êtes des privilégiés, vous l'avez compris. Mais que les autres se rassurent, cet échange, ce débat, avec vous, qui va avoir lieu après notre conversation, sera en grande partie diffusée sur les ondes d'RCJ. Alors je suis toujours étonnée, c'est vrai, du nombre d'auditeurs qui aujourd'hui encore m'interpellent dans toutes sortes de milieux, près de 3 ans après l'interruption de cette émission, pour me dire combien ce rendez-vous leur manque. Et je suis surtout frappée par l'intensité de leurs témoignages. Je crois qu'en effet, il s'agissait de beaucoup plus qu'une émission, d'une aventure intellectuelle qui a embarqué un public très divers, et c'est une autre source de fierté. Alors Alain Finkielkraut, merci de nous offrir à nouveau ce qui vive le temps d'un soir. Et oui, le temps d'un soir, car on ne reprend pas, en tout cas dans l'immédiat, ce rendez-vous hebdomadaire. Alors le menu de ce qui vive est bien sûr très chargé, puisque cela fait plus d'un an que nous ne nous sommes pas retrouvés pour parler de l'actualité. Et je vous propose de commencer cette réflexion par un événement qui se rapproche à grands pas, ce qu'il est convenu d'appeler Durban 2. Rapide rappel des faits, en septembre 2001, on le sait tous, a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, la conférence de l'ONU contre le racisme, qui a tourné au déchaînement antisioniste et antisémite. À Genève, doit avoir lieu du 20 au 24 avril prochain une nouvelle édition de cette conférence contre le racisme, avec un comité préparatoire dont la composition est des plus inquiétantes. La Libye en assure la présidence, Cuba en est le rapporteur et l'Iran est en charge de la vice-présidence. Alors, cela aurait des allures de farce si ce n'était pas aussi grave et si ça ne se faisait pas sous l'égide de l'ONU. Et après la publication d'un premier texte, le Canada, Israël, les États-Unis et l'Italie ont annoncé leur décision de ne pas se rendre à cette conférence. Un nouveau texte a été le rebondissement de ces derniers jours, a été adopté le 17 mars, où un certain nombre de points qui fâchent ont disparu, notamment l'expression « diffamation des religions ». Il y a également la condamnation de la politique menée par Israël à l'égard des Palestiniens qui n'est plus explicite. Et enfin, les demandes de réparation pour l'esclavage pratiqué autrefois par certains pays européens qui est passé sous silence. Mais ce texte endosse tous les documents qui ont précédé, donc notamment tout ce qui a été adopté à Durban, ce qui évidemment rend évidemment très suspect ce qui va suivre. Il n'empêche que, en tout cas, la France a décidé de s'y rendre avec beaucoup de vigilance, hein, puisque Ramaya dit il faut y aller pour combattre. Le camp des vigilants, précisément, se divise aujourd'hui entre ceux qui pensent qu'il faut s'abstenir d'y aller et ceux qui pensent qu'il faut y aller pour faire entendre une voix différente et éventuellement partir au moment où les choses tourneraient mal. Alors Alain Finkielkraut, je sais que vous avez rencontré Ramaya récemment, au début du mois de mars, pour la convaincre, me semble-t-il, de s'abstenir d'aller à cette conférence. De quel camp faites-vous partie aujourd'hui ?
Avant de vous répondre, Ilana, je voudrais dire que je suis ému et même embarrassé par l'accueil que je viens de recevoir, si bien les mots que vous avez prononcés, ceux de Shlomo, les applaudissements. C'est un véritable plaisir pour moi et aussi un embarras parce que je vais mieux bien sûr, mais je ne suis que moi et j'ai peur de décevoir une attente aussi à mes yeux extraordinaire, d'autant que j'espère ne pas être diminué par l'épreuve que j'ai traversée, mais je crois quand même être un peu moins combatif que les années précédentes, ou avoir un peu moins le goût de la bataille. Mais enfin, nous verrons bien, et je ne me déroberai pas à vos questions. En effet, j'ai rencontré, mais avec plusieurs autres personnalités associatives ou intellectuelles, Ramaya, il y a une quinzaine de jours, au ministère des Affaires étrangères, une rencontre qui avait été organisée notamment par François Imray, dont on connaît sans doute le nom, ancien député européen du Parti Socialiste, qui avait mis en garde l'Union européenne, comme on s'en souvient, contre l'usage fait par l'autorité palestinienne des fonds qui lui étaient versés, et ça lui avait valu une grande méfiance de la part de ses camarades, ce qui fait qu'il n'avait pas été reconduit en position éligible lors des dernières élections européennes. Et il a été, il faut bien le reconnaître, choisi par ce gouvernement, mais nous aurons peut-être l'occasion de reparler du gouvernement, pour justement avoir un œil sur ce qu'on appelle Durban 2. Donc cette réunion a eu lieu, elle s'est très, très bien passée. La majorité des présents était hostile à toute présence de la France à cette prochaine rencontre de Genève. La majorité des présents, c'est-à-dire aussi bien Malka Markovitch, qui a écrit un livre tout à fait extraordinaire, « Les Nations désunies, comment l'ONU enterre les droits de l'homme », et puis Alexandra Adler, Bernard-Henri Lévy, Fodé Silla, Jacques Tarnero, moi-même, une seule voix un peu discordante, une voix aussi dont nous aurons peut-être l'occasion de parler, celle de Caroline Fourès qui demandait au contraire que la France soit présente précisément pour que la cause qu'elle défende soit, puisse se faire entendre. Nous avons cru convaincre les participants, en tout cas Ramayad, les fonctionnaires du Quai d'Orsay étaient extrêmement méfiants à l'égard de cette position, mais il faut croire que le Quai d'Orsay a eu raison des intellectuels réunis. Au fond, on se demande un peu pourquoi. Sauf que, bien sûr, il y a quelque chose d'un peu positif aujourd'hui, c'est que cette rencontre de Durban ne prend personne de court. Je me souviens, en 2001, d'un article magnifique d'Élie Barnavi dans Libération, mettant en garde contre ce qui se tramait, avec une prescience implacable, et cet article n'avait ému strictement personne. Et on a... Bon, maintenant, les gens savent, et qu'on aille ou qu'on n'aille pas à Durban, le regard a complètement changé. Alors, cela étant, avant de répondre à votre question, enfin, j'y ai déjà répondu, mais pour justifier le choix qui est le mien, si vous voulez, qui est celui de l'abstention, je préfère, sur les conseils d'ailleurs de Malka Markovitch, le mot d'abstention à celui de boycott. Boycott est un terme politiquement très violemment connoté et qui pourrait justement, en quelque sorte, satisfaire les partisans de Durban, de cette conférence sur l'intolérance. Il ne s'agit pas de boycott, il s'agit de non-présence, il s'agit du refus de cautionner une entreprise pareille. Alors pourquoi ce refus? D'abord, il faut commencer par une réflexion d'ordre très général. Me semble-t-il. Il y a des racistes aujourd'hui. Oui, puisqu'il s'agit d'une conférence sur le racisme, la xénophobie et l'intolérance. Alors, un mot sur le racisme, un mot sur le mot racisme. Il y a des racistes aujourd'hui, bien sûr, personne ne le niera, mais personne non plus ne peut nier qu'on ne se réclame plus du racisme, que, sauf exception tout à fait marginale, on ne se dit plus raciste. Le racisme a perdu dans le monde tout crédit. L'idée d'un déterminisme génétique ou d'une identité héréditaire, d'une identité collective transmise par l'hérédité, cette idée n'est plus de mise. La science qui la soutenait, c'est depuis longtemps déjà, depuis 50 ans déjà au moins, totalement retournée contre elle. Donc, l'idéologie raciste, le discours raciste est en quelque sorte le produit d'une rencontre, d'une liaison fatale entre la science et l'intolérance. Eh bien, cette liaison s'est dénouée. Le divorce a été prononcé. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la haine et l'intolérance aient disparu. On peut même dire... qu'elles se portent très bien, même si on peut pas aller jusqu'à penser qu'elles ont fait des progrès quand on songe au XXe siècle, mais précisément, elles s'expriment dans la langue de démocratique, celle-là même des droits de l'homme, celle-là même qui se prévaut d'avoir vaincu précisément la haine et l'intolérance. La persécution, le fanatisme contemporain ont une prédilection pour les atours et les discours de la lutte contre la discrimination et contre l'exclusion. On ne brandit plus la croix gammée, on la colle sur la poitrine de ceux qu'on veut abattre. Voilà ce qu'il faut savoir. Dit autrement, la rhétorique antiraciste couvre désormais les pratiques les plus autoritaires, les plus cruelles, les plus régressives, les plus abominables. partout dans le monde, et notamment dans le tiers-monde, et plus précisément en Afrique et dans les pays de la conférence, de l'organisation de la conférence islamique. Pour le dire d'un mot, l'antiracisme est la novlangue d'aujourd'hui. Vous savez, la novlangue, c'est un terme inventé par Orwell dans 1984, Newspeak, novlangue, c'est la langue taillée sur mesure pour l'idéologie totalitaire. Et le but de la novlangue est non seulement de fournir un moyen d'expression pour la vision du monde et les habitudes mentales des adeptes du socialisme triomphant, mais son but est de rendre impossible tout autre mode de pensée. Et tout l'art de cette novlangue antiraciste est précisément d'investir le discours du bien pour intimider toute dénonciation du mal. Et je pense que cette novlangue s'évite aujourd'hui à l'ONU dans ces conférences de Durban qu'on ne peut pas cautionner cette imposture. On ne peut pas parler cette novlangue et on ne peut pas parler avec ceux qui la parlent. Il n'y a pas de compromis possible avec la novlangue de l'antiracisme pour un antiracisme conséquent, si vous voulez. Et Durban n'est rien d'autre et ne peut être rien d'autre, étant donné le rôle, et vous l'avez souligné, qui joue notamment des pays comme la Libye et l'Iran. Alors, bien sûr, des progrès ont été accomplis, bien sûr, dans le dernier projet de résolution pour éviter l'abstention massive des pays européens qui viendraient rejoindre Israël, le Canada et les États-Unis. Alors, on efface les références trop explicites à Israël. On ne parle plus de diffamation de religion, ce qui est une atteinte, évidemment, à la liberté d'expression. On ne parle plus de réparation pour l'esclavage. Mais comme vous l'avez dit, on endosse toutes les résolutions précédentes qui ne parlent que de ça. Donc, il s'agit, en effet, d'un tour de passe-passe. Et il faut aller encore plus loin. C'est que l'un des concepts centraux de cette novlangue, c'est l'alliance des civilisations. Il faut dire un mot sur l'alliance des civilisations. Parce que c'est à la fois un concept séduisant, et c'est aussi une structure. Car la créativité bureaucratique de l'ONU est, comme chacun sait, infinie. Donc il y a une structure à l'ONU, une structure transversale, je crois, qui s'appelle l'Alliance des civilisations et qui travaille notamment dans le sens de Durban 1 et de Durban 2. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit à l'origine d'une réponse, c'est une soi-disant réponse au choc des civilisations de Samuel Huntington. Sauf que, déjà, cette réponse est mensongère. Déjà, on est dans l'idéologie. Parce que dans ce livre, Samuel Huntington ne préconisait nullement le choc des civilisations. Ce n'est pas un livre qui disait, voilà, il est temps d'entamer de nouvelles croisades, notamment contre l'islam. Ce livre prenait acte d'une réalité qui se confirme tous les jours, celle d'un nouveau paradigme. Non plus le paradigme idéologique du XXe siècle, les grandes idéologies, fascisme, nazisme, communisme, démocratie libérale. Non, un paradigme culturel ou civilisationnel. On lutte précisément, oui, au nom de l'islam, par exemple. Mais prenant acte de ce nouveau paradigme, Huntington préconisait le réalisme politique. Il disait, pour éviter une guerre de civilisation qui risque d'être aussi cruelle que les guerres idéologiques du XXe siècle, alors soyons réalistes, n'intervenons pas partout au nom de nos valeurs. Ce nouveau paradigme doit nous convaincre du caractère particulier de notre valeur. Ne nous gargarisons pas de l'universalité de l'économie de marché, de la démocratie parlementaire, voire des droits de l'homme. Et si les Chinois veulent absorber le Tibet, laissons-les absorber le Tibet tranquille. Tel était le message d'Huntington. un message très contestable. Le message qui allait absolument, en tout cas, à l'encontre de l'idéologie néoconservatrice, à laquelle il est possible que Huntington se soit rallié plus tard, mais pour s'y rallier, il a dû abjurer les thèses du choc des civilisations. Or, l'alliance des civilisations répond donc à un ennemi qu'elle invente, celui d'un Occident dont le choc des civilisations, au sens quasiment non-Huntingtonien du terme, serait devenu la Bible. Et on nous dit, non, il faut opposer à cet affrontement que certains souhaitent le dialogue. Qui ne serait d'accord avec une telle préconisation? Sauf que déjà, vous voyez, il y a un petit mensonge au départ. Mais bon, qu'en est-il, une fois ce mensonge divulgué, du dialogue proposé? Alors, le livre de Malka Murkowicz, à cet égard, est très intéressant parce que il nous fait part de la réaction de cette entité, de cette structure, de cette bureaucratie, de l'alliance des civilisations, au moment de l'affaire des caricatures. Hein, cette affaire des dessins des caricatures parues au Danemark, une affaire qui a eu, comme chacun sait, avec leur publication notamment par Charlie Hebdo, des retombées françaises. Nous appelons chacun à exercer sa liberté d'expression de manière responsable et à ne pas l'utiliser comme un prétexte pour inciter à la haine ou aux insultes contre les croyances profondément ancrées dans quelque communauté que ce soit. Et aucune condamnation des réactions violentes. Condamnation des caricatures elles-mêmes qui sont allées très loin et qui ont suscité des réactions certes excessives, mais le coupable, ce sont les caricaturistes, autrement dit, qui ont commencé. Et Desmond Tutu, membre de l'Alliance des Civilisations, un homme qu'on aimerait ne jamais avoir à critiquer, étant donné le rôle qu'il a eu dans la lutte contre l'apartheid, Desmond Tutu dit « La controverse autour des caricatures est la manifestation d'un plus grand problème entre le monde musulman marginalisé et un Occident puissant et exploiteur. » Voilà ce que nous dit l'Alliance des Civilisations. Et cela nous fait progresser peut-être, et j'en aurai vite terminé, dans l'analyse de cette novlangue. Parce que, vous voyez, le monde, là, par Desmond Tutu, par les partisans de l'Alliance des Civilisations, est divisé en deux. Pensée binaire qui se manifeste à nouveau, qui pointe le bout de son nez. Hein, nous sommes à nouveau soumis au schéma ou au chantage. Comme l'a écrit un grand philosophe dissident polonais, Leszek Kolakowski, chantage de l'unique alternative. Réduire toutes les oppositions du monde à une opposition unique, conférer un sens commun à tous les conflits qui ont lieu dans ce monde. Donc le conflit originel, le conflit dont tous les conflits sont issus, le méta-conflit, si vous voulez, ou l'archi-conflit, c'est la lutte qui oppose un Occident prédateur au reste du monde et un Occident dont les principaux traits négatifs, et c'est là que l'antiracisme se pointe, les principaux traits négatifs sont l'exploitation et l'exclusion, la domination et le racisme. Et donc, l'alliance... Qu'est-ce que c'est que cette alliance des civilisations qui est proposée en réponse au choc des civilisations qui menace? Eh bien, c'est une demande faite aux Occidentaux, d'une part, d'adopter ce schéma et dès lors de faire amende honorable, précisément pour éviter la guerre. Hein? Donc, le remède à la guerre, ce serait la, et on connaît le refrain quand même, ce serait la capitulation, couvrir la reddition du beau nom d'alliance. Voilà ce qui est proposé. Voilà, si vous voulez, l'horizon d'Urban. Donc je crois qu'aucune concession ne doit être faite en aucune manière à l'esprit de Durban. Il ne faut pas y aller, et à mes yeux d'ailleurs, il ne faut pas y aller non plus pour protester. Ni du côté de Ramayad pour faire acte de présence, ni du côté de certaines organisations non gouvernementales, ou organisations juives qui voudraient dire là-bas dans des colloques, dans des manifestations, que la Shoah est le crime des crimes ou que Israël veut la paix. D'abord parce que Israël est hors sujet. Donc Israël n'a pas à être présent, n'a à être présent en aucune façon à Durban. Quels que soient les excès commis par l'armée israélienne à Gaza, ce conflit n'a strictement rien à voir avec le racisme et l'intolérance. Et Israël n'est jamais rien d'autre que le bouc émissaire, en quelque sorte, de l'antiracisme officiel, de la novlangue antiraciste, c'est-à-dire on dirige les griefs de peuples entiers sur Israël, sur les crimes israéliens, afin de ne pas pouvoir dire un mot sur ce qu'il en est de la misogynie, de l'homophobie, de l'antisémitisme, et de toutes les pratiques abominables qui peuvent se dérouler aujourd'hui dans les pays africains ou dans les pays islamiques. Parmi ces pratiques abominables, il y a ce dont on a entendu parler récemment, par exemple, les crimes contre les albinos, hein, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc on ne parlera pas de tout ça pour focaliser l'attention sur Israël. On ne répond pas à cette machination, cette manigance, en disant Israël veut la paix. On ne répond pas du tout. Voilà
mon opinion. Oui, donc, pour aller un petit peu plus précisément dans ce qui va se passer effectivement à Genève, il faut rappeler qu'il y a en ce moment des contre-manifestations, une espèce de contre-Durban 2 qui est en train de s'organiser, notamment par l'AGC, hein, l'American Jewish Committee, on peut regretter que cette contre-manifestation effectivement soit très juive, au sens où les organisations qui soutiennent ce contre-événement sont principalement juives. Le CRIF, d'ailleurs, je crois, s'y associe. Et il y a peut-être là, à l'Infinkelkraut, un très grand rendez-vous manqué, parce qu'il y avait peut-être l'occasion là de redonner précisément aux droits de l'homme et à l'antiracisme son caractère universel, en parlant, oui, bien sûr, de la Shoah, mais de tous les autres crimes qui sont en train de passer sous silence, vous le disiez, en Afrique, l'esclavage passé et même présents, qui sont totalement occultés. Donc là, est-ce qu'il y a un rendez-vous manqué entre, d'une certaine manière, les associations juives et tous ceux qui auraient pu être leurs alliés ?
Tout est manqué dans cette affaire. Donc oui, c'est un des rendez-vous manqués. Je crois que ce que nous devons aux populations, aux peuples africains comme aux peuples musulmans, c'est précisément de ne pas cautionner Durban, puisque la principale fonction de ce genre de conférence, c'est de faire le silence sur ce que ces peuples peuvent souffrir aujourd'hui, sur l'intolérance qui sévit dans leur société.
Et aujourd'hui, donc, pour terminer, la participation de la France à cette conférence, qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Si vous voulez,
vous l'expliquez finalement ?
Je l'explique. Alors, il y a une explication très critique tiendrait à la tradition du Quai d'Orsay, dont j'ai cru ressentir la puissance lors de cette réunion avec Ramayad, et une tradition qui, en effet, préfère l'alliance qui accepte de se laisser enfermer dans cette alternative truquée entre l'alliance des civilisations et le choc des civilisations. Et puis il y a, disons, une interprétation moins critique, plus favorable, qui consiste à dire, oui, la France veut être présente pour peser sur les débats. Mais il n'y a pas de débat. On ne pèse pas. On ne parle pas avec l'antiracisme idéologique. On ne contourne, on parle une autre langue et on parle ailleurs. Et je voudrais, puisque vous dites que nous finissons, et peut-être de manière un peu provocatrice, opposer à l'esprit de Durban, et qu'on respirera à Genève, s'il n'y en aura pas d'autre. L'esprit, et ça peut paraître un peu étonnant, ça m'étonne un peu moi-même aussi de faire cette comparaison, mais elle me semble justifiée. L'esprit, j'appellerais l'esprit de la journée de la jupe. Et je pense en effet à ce film qui est passé sur Arte vendredi dernier et qui est un film, je ne juge pas sur le plan cinématographique, c'est pas un film cinématographiquement absolument génial, même si il est beaucoup plus agréable à regarder en fait que L'Esquive, qui a eu un immense succès. Je ne peux pas parler d'Entre les murs parce que je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est un événement politique d'une importance extrême. Je dirais même que c'est un événement historique, ce film, puisqu'on y voit Isabelle Adjani dans le rôle d'une professeure de français qui, selon l'expression consacrée, mais là, évidemment, on a envie de l'employer, pète les plombs face à des élèves qui la provoquent, qui, au nom du respect qui leur est dû, la méprisent absolument. Et cette professeure, à un moment donné, ouvre le sac d'un des élèves, découvre un pistolet, est complètement affolée par sa découverte, et puis finalement elle s'en empare, et elle prend pendant quelque temps sa classe en otage, il y a beaucoup de péripéties, et pendant qu'elle prend sa classe en otage, enfin, elle réussit à lui faire un cours digne de ce nom sur Homère. Et pourquoi j'oppose... Sur Molière. Oui, t'es spectateur vigilant. Donc, elle fait ce cours sur Molière, et pour la première fois vraiment, la réalité que l'antiracisme officiel dissimulait, eh bien cette réalité apparaît. Des choses sont dites sur l'antisémitisme, le sexisme, la violence, la délinquance qui sévissent dans certains lieux en France. Et je prétends qu'il n'y a pas de caricature. C'est dit avec une extrême justesse, et j'ajoute avec une extrême humanité. Car nous sommes confrontés au désespoir d'une enseignante dont nous apprenons au cours du film qu'elle est elle-même d'origine arabe, mais qu'elle n'a jamais voulu le dire pour capter la bienveillance de ses élèves. Nous sommes dans une école laïque, ne cessait-elle de leur répéter, et ce qu'elle veut le plus au monde, c'est leur assurer les moyens d'une ascension sociale, mais d'une intégration dans le monde, les moyens dont elle a elle-même disposé. Voilà. Et c'est aussi un film sur l'impasse que constitue la misogynie actuelle dans ces lieux-là. Une misogynie où se rencontrent à la fois l'archaïsme, l'héritage archaïque d'une certaine civilisation, et le postmodernisme de la pornographie à disposition permanente. Voilà ce que dit ce film. Voilà pourquoi elle rêve d'instaurer une journée de la jupe. Oui, les femmes se sont battues pour obtenir le droit de mettre un pantalon, ce qui leur était interdit dans les lycées jusque dans les années 60. Voilà que cette professeure se surprend elle-même à réclamer, pendant ses négociations, avec un acteur d'ailleurs, avec un policier joué par un acteur extraordinaire de Denis Paladides, une journée de la jupe. Oui, et ben voilà. Plutôt que Durban, plutôt qu'une conférence de Durban, une conférence de la jupe pour lutter contre un des phénomènes les plus graves d'aujourd'hui, dont les conséquences politiques sont abyssales, c'est-à-dire la misogynie dans les pays musulmans.
Alors, il y a un très beau texte qui a été publié dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, d'ailleurs ce week-end, d'un écrivain israélien, Amir Gutfreund, qui va nous permettre de faire le lien entre Durban et puis notre deuxième sujet, l'actualité en Israël. Et dans ce texte, Amir Gutfreund regretter qu'il y ait cet aveuglement européen sur un certain islam qu'on n'osait pas juger de peur, dit-il, qu'on nous puisse nous prendre pour des arrogants, des racistes, des colonialistes. Et cela fausse d'une certaine manière le regard sur beaucoup de sujets, et notamment sur Israël, disait-il, puisqu'il est tellement plus confortable stigmatiser l'arrivée de la droite au pouvoir en Israël et en faire le nœud du problème, hein, pour le citer, que de se rendre compte que depuis une dizaine d'années, la nature du conflit israélo-palestinien a changé, et que le facteur principal qui a changé, c'est qu'il ne s'agit plus tant d'un conflit territorial que d'un conflit qui met en jeu l'intégrisme musulman, et que ça change absolument tout, et que si on n'arrive pas à comprendre ça, eh bien on peut rien comprendre à ce conflit. Je crois que c'est un texte, Alain Finkielkraut, qui vous a beaucoup frappé.
Oui, énormément. Je trouve que ce texte est tout à fait extraordinaire. Il s'intitule « Peine d'amour perdue », je l'ai apporté ici, et je voudrais d'ailleurs, pour continuer dans votre sens, et faire cette transition dont vous parliez entre Durban et la situation en Israël, je voudrais faire une citation, parce qu'il parle de Durban 2, Amir Gutfreund, pardon. Il en parle en écrivain. Et voici ce qu'il écrit. « J'imagine déjà la scène. Le délégué d'un pays où des fillettes de 8 ans sont mariées de force à des vieillards proclamera son indignation devant la situation des droits de l'homme en Israël. Le délégué d'un État qui subventionne la terreur partout dans le monde portraiturera Israël en État terroriste. L'ambassadeur d'une nation à un tribunal a prononcé une peine de viol collectif sur une jeune fille dont le frère avait attenté à l'honneur d'une autre femme dissertera sur la politique scandaleuse d'Israël par rapport à ses minorités. Et celui d'un pays qui fomente la guerre à toutes ses frontières parlera de l'inquiétude qu'il étreint face au bellicisme israélien. » Et ce qui inquiète particulièrement Amir Gutfreund, c'est l'attitude des Européens. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils feront s'ils sont eux-mêmes présents à Durban? Et il prédit qu'ils le seront. Il prédit, j'espère que cette prédiction ne sera pas réalisée, ou qu'en tout cas, si elle est réalisée, ils sauront réagir. Mais voilà qui est une dénonciation sans appel de l'imposture de Durban et du rôle que joue l'anti-sionisme comme moyen de camouflage de la haine, de la xénophobie et de l'intolérance aujourd'hui. Alors pour en revenir à Israël, oui, le texte est extrêmement intéressant sur cette question aussi, parce que Gutfreund dit qu'il a voté à gauche. Il a voté d'ailleurs pour le parti qui s'est écoulé, donc on a compris qu'il n'a pas voté Meretz, mais il a voté pour les travaillistes. Et en même temps, il dit « Les raisons qui ont poussé l'opinion publique israélienne à droite ne me sont pas étrangères, tout électeur de gauche que je sois, le fait est que c'est facile d'en faire abstraction quand on habite une déplaisante cité d'Europe. Tout accord de paix, aussi précaire soit-il, représente en effet pour Israël la mise en jeu de sa propre existence. La preuve, une concession sur certains territoires situés en bordure du centre d'Israël nous laisserait un territoire dont la largeur ne dépasserait pas parfois 15 km. C'est-à-dire, nous vivrions enserrés dans des frontières plus étroites que celles de Paris. » Et ça, je trouve ce texte extraordinaire parce qu'il met le doigt sur le malentendu essentiel entre, disons, je dirais pas, avec beaucoup d'exceptions, avec beaucoup de nuances, mais disons, entre les Juifs et les autres. Ce dont les Juifs ont à souffrir quand il s'agit d'Israël, ce n'est pas tant du fait que l'on critique telle ou telle exaction de l'armée israélienne. Si elle a été commise, il faut qu'elle soit critiquée. Si des rabbins ont pu engager à les commettre au nom de je ne sais quelle guerre sainte, il faut même que la critique se fasse absolument implacable. Non, ce qui crée un fossé, c'est ce que j'appellerais, rien d'extraordinaire, le déni de la vulnérabilité d'Israël. Au fond, nous vivons toujours et même plus que jamais sous l'égide de la phrase désastreuse prononcée par le général de Gaulle en 1967. Hein ? Ce pays, ce peuple d'élite sur de lui-même est dominateur. Peuple d'élite sur de lui-même est dominateur. Et Israël est la quintessence de ce peuple. Israël n'est pas un pays vulnérable. Israël est un pays puissant qui veut imposer sa loi aux Palestiniens. Voilà, si vous voulez, l'essentiel du litige ou du différend, parce que de toute façon, je ne vois pas ce qui pourrait le régler. Et évidemment, la guerre à Gaza a aggravé les choses. Elle a encore, si vous voulez, le fossé est devenu plus grand. Elle a agrandi le fossé. Pourquoi ? Parce que les Israéliens et les Juifs savaient bien que il fallait réagir à 8 années de bombardements de roquettes continues, et l'opinion européenne une partie importante de l'opinion européenne, ou disons l'opinion éclairée européenne dans sa grande majorité, elle est restée focalisée sur les chiffres. Quelques morts du côté israélien depuis 6 ans et peut-être 800 ou 1000 morts du côté palestinien en 15 jours. Donc si il n'y a pas de morts, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est que ces roquettes sont vraiment artisanales. C'est que les Palestiniens font une sorte de baroud d'honneur et tapent absolument n'importe où. Donc les Israéliens n'ont pas peur, ils font semblant d'avoir peur. Alors même que précisément s'il n'y a pas de mort, c'est parce que la peur leur a dicté un certain nombre de mesures qui ont protégé les populations et qui ont paralysé les sociétés. Hein ? Mais ça, c'est quelque chose qui était extraordinairement difficile à faire entendre. Et quand je lisais ces lignes d'Amir Gottfried, je pensais aussi à un livre d'entretien très ancien de Pierre Mendès France, qui a été republié il y a un an. C'était des conversations avec Jean Botorel, choisir une certaine idée de la gauche. Et voici ce qu'il dit à un certain endroit. Donc, nous savons. Quelques années après la guerre de 67, Mendès France est prêt à s'engager pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous savons que cet engagement occupera la dernière partie de sa vie, qu'il s'y est investi de manière absolument passionnée. Et voici ce qu'il dit, donc, en 1973, à un certain endroit, le territoire israélien avait 12 kilomètres de largeur, et c'était indéfendable, dans tous les sens du mot. Avant la guerre des 6 jours, les chauffeurs de taxi s'amusaient à exciter les touristes américains en leur disant, on va traverser l'État d'Israël de bout en bout, on va battre le record de vitesse. Quand ils avaient réussi la traversée en 10 minutes, ils recevaient un bon pourboire. Réclamer fanatiquement le retour à un pareil découpage, non, ce n'était pas sérieux. Dès lors, on a vu des Israéliens très raisonnables renoncer, découragés à chercher un accord. Du moment qu'on se cramponnait à la référence de 1967, j'ai entendu dire par certains d'entre eux, il n'y a rien à faire, inutile de chercher à discuter, etc., etc. Je rappelle que l'initiative arabe, aujourd'hui, celle peut-être d'ailleurs qu'il faut savoir saisir, demande un retour aux frontières de 67. Ce retour en soi était jugé totalement absurde par Mendès France en 1973. Et ceux qui se réclament de Mendès France aujourd'hui, à gauche, nous disent au contraire que c'est la seule voie possible de la paix. Et quand Amir Gottfried affirme la vulnérabilité d'Israël, quand il pointe aussi cette nouvelle réalité que Mendès France ne pouvait pas percevoir, c'est-à-dire la montée de l'extrémisme islamique, eh bien, il a raison. Et nous savons que... Il ne s'agit pas de dire il ne faut pas négocier avec le Hamas. Nous savons qu'il est impossible de ne négocier avec le Hamas. Et d'ailleurs, la preuve vient d'en être fournie. Le Hamas avait une occasion extraordinaire de faire libérer plusieurs centaines de détenus palestiniens par un gouvernement qui voulait absolument attacher son nom à la libération du soldat Shalit. C'est le gouvernement des Oud-Olmert. Donc, il était prêt à faire des concessions qu'aucun gouvernement futur, et notamment pas celui qui se prépare, ne fera. Et pourtant, les négociations ont été cassées par le Hamas, qui a demandé plus qu'il ne demandait au début, à la fin des pourparlers, ce qui évidemment contrevient à toutes les règles de la diplomatie, et ce qui montre à quel point la situation est difficile, car ils auraient pu obtenir beaucoup, de même que depuis 2005, depuis le retrait des Israéliens de la bande de Gaza, ils auraient pu disposer d'argent et améliorer la vie de leurs citoyens, mais ce n'est pas leur objet. Et c'est ça, donc je partage le découragement, je partage cette inquiétude, et je ne dirais pas pour ma part que Israël aujourd'hui vire à l'extrême droite. Je pense qu'il faut raisonner comme Amir Bonfreund, et j'ajoute que le parti qui a gagné les élections, tout de même, c'est Kadima, et que la chef de ce parti, et ça c'est très intéressant, refuse aujourd'hui d'entrer dans la coalition, car elle demande, et elle ne veut pas transiger avec cette demande, que le Premier ministre, disons, accepte dans une déclaration la solution de deux États. C'est beaucoup plus loin encore que n'allait le parti Kadima au temps de Sharon, puisqu'il parlait de négociations douloureuses, mais il laissait les choses dans le flou. Et c'est la dernière chose que je voulais dire. En dépit des difficultés qui sont faites à Israël par un adversaire toujours plus redoutable, et qui n'est pas devenu plus redoutable de la seule faute d'Israël, puisque le problème de l'intégrisme ou de l'extrémisme islamique se pose, disons, au monde entier, eh bien, en dépit de cela, il n'y a pas d'autre solution que le compromis, que la négociation en vue de deux États, et le temps presse. Autrefois, on pouvait dire avec optimisme, la paix maintenant, shalom arshav, la paix est peut-être un grand mot après tout ce qui s'est passé et l'accumulation de la méfiance, mais alors au moins il faut dire la séparation maintenant. La séparation avec ce qu'elle implique, le retrait d'un grand nombre de colonies, parce que l'alternative à la séparation, c'est ni plus ni moins que le suicide du sionisme, c'est-à-dire la fin de l'État juif, l'État binational, un État où les Juifs ne seraient plus en majorité. Donc je pense que, aussi pessimiste soit-on sur la tournure des événements, et aussi seul puisse-t-on se sentir quand on parle de la vulnérabilité d'Israël, il faut aussi continuer à affirmer que la solution de deux États est la seule solution possible, et qu'en plus, elle est absolument urgente.
Mais elle n'est possible qu'avec les éléments les plus modérés côté palestinien. Est-ce qu'on s'oriente quand même vers une coalition Hamas-Fatah, et est-ce que ça, pour vous, c'est une impasse?
Je ne sais pas. C'est des considérations géopolitiques qui vont très au-delà de mon domaine de compétences. Oui, est-ce qu'un gouvernement du Hamas et du Fatah permettra de réintroduire certains éléments du Hamas dans une négociation véritable? Est-ce qu'au contraire, il empêchera toute discussion? En tout cas, on ne peut pas utiliser ça comme prétexte, car, encore une fois, il n'y a pas de choix. Là, pour le coup, je pense qu'on peut dire, nous ne sommes plus dans ce moment où on pouvait réfléchir le grand Israël d'un côté, le grand Moyen-Orient de l'autre, etc. Non, il y a une urgence, préserver le sionisme.
Alors on va passer à un tout autre sujet dans l'actualité, les bourdes de Benoît XVI qui se sont multipliées. Alors petit rappel, l'affaire Williamson, hein, avec la remise en cause donc de l'excommunication d'un négationniste. Alors même s'il y a eu des problèmes de communication, il reste que l'excommunication a été remise en cause à ce jour, et on ne peut pas dire que Williamson soit vraiment revenu sur ses propos. Donc ça a été l'occasion, bien sûr, pour le monde catholique, et ça a été pour ça très rassurant de montrer qu'il ne partageait pas du tout ses vues négationnistes. Mais il n'empêche, deuxième sujet de perplexité, l'excommunication prononcée au début du mois par un évêque brésilien contre la mère d'une fillette de 9 ans, enceinte de jumeaux à la suite d'un viol, et contre les médecins qui avaient pratiqué l'avortement sur elle. Et là encore, un proche du pape a approuvé, et jusqu'à ce jour on n'a pas entendu que le pape quant à lui se soit distancé. Il y a eu bien sûr les propos du pape concernant l'usage du préservatif qu'il a considéré comme étant de nature à aggraver le problème du sida en Afrique. Et puis dernière en date, vendredi, lors de son voyage en Angola, il a remis en cause un article du protocole de Maputo, qui est une charte sur les droits de la femme en Afrique, qui autorise notamment l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus, autrement dit ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Alors, depuis, le Vatican, en tout cas pas directement le pape, mais les services du Vatican ont dit non, c'est pas ça qu'il voulait dire. En fait, il ne voulait parler que de la large utilisation de l'avortement comme moyen de contrôle des naissances. Il n'empêche, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme.
Oui, bien sûr. Non, mais alors, attendez, soyez calme, soyez patiente. Je dirais du mal du pape, mais je voudrais dire deux ou trois choses. Avant. Mais je préviens tout de suite, parce que je ne fais pas partie de ceux qui regrettent que le pape ne participe pas à la SIDAction. Et je pense que Patrice Duhamel, le directeur de France Télévisions, a été particulièrement mal inspiré quand il a pris l'initiative de rétorsion, d'apposer le logo du SIDAction, mesure de rétorsion contre les propos du pape sur le préservatif, d'apposer le logo de SIDAction sur les émissions religieuses du dimanche matin, sans consulter les producteurs. Je trouve ça déplacé, ridicule, inconvenant. Et j'aggrave mon cas, d'ailleurs, en disant que les journalistes sortent de leur rôle en arborant comme un seul homme, et ce comme un seul homme devrait quand même nous mettre un peu mal à l'aise, le ruban rouge, la rosette de la lutte contre le sida tout au long de la SIDAction. Un journaliste n'est pas un militant, il faut protéger et non recouvrir la différence entre information et mobilisation, quelle que soit la cause qui mobilise. Et j'ajoute, et je vais même plus loin, que j'ai été absolument horrifié par la dernière tribune de Caroline Forest dont nous parlions tout à l'heure, puisque elle avait soutenu, avec éloquence d'ailleurs, lors de la réunion organisée par Ramayad, la position qui s'avère être la position française, être présent pour ne pas céder du terrain aux extrémistes. Et dans cette dernière tribune, elle se demande pourquoi le pape ne pourrait-il prôner le droit à l'amour, une sexualité déculpabilisée, donc épanouie et protectrice. Pourquoi ne pas rêver à des religions renouant avec leur part d'humanisme au lieu de nous asséner leur part d'ombre dominatrice? Pourquoi ne pas souhaiter des imams luttant contre le terrorisme avec des fleurs, des rabbins portant secours aux enfants de Gaza et un pape distribuant des préservatifs en Afrique? Alors, cette évocation... Hein, très émouvante.
Je vous assure que c'est cité dans le texte.
M'inspire deux remarques. La première, j'y vois une preuve, parmi tant d'autres, de l'impérialisme de l'esprit du temps. La volonté de la doxa de plier toutes les institutions et tous les individus à sa loi. C'est vraiment la dictature du « on ». On doit penser comme on pense. Il incombe aux religions de reprendre, chacun sous son drapeau, l'idéologie cool et sympa du Club Med. Enfin, quand je dis Club Med, ça fait très années 80. Alors, disons du grand journal de Canal+. Or, la deuxième remarque porte sur une certaine propension à l'amalgame. C'est-à-dire, l'occasion est trop belle de noyer le poisson de l'islamisme radical en renvoyant dos à dos tous les grands monothéismes sous leur forme actuelle. Ce n'est plus donc là, on n'est plus dans le cadre de l'alliance des civilisations, mais de l'alliance des démocraties ou des démocrates contre tous les intégrismes. Et je pense que cette alternative à Durban est moins dangereuse que Durban, mais n'est pas moins mensongère que Durban. Donc, le pape, si vous voulez, n'est pas là pour satisfaire l'opinion régnante. Il n'est pas le rédacteur en chef du grand journal. Il est le chef de l'Église. Et il faut s'y résigner. Et l'Église n'a pas à parler le langage de l'ère du temps. Donc s'il trahit le Zeitgeist, eh bien, il est dans son rôle. Il serait beaucoup plus grave qu'il s'y soumette. La seule question qui doit être posée, c'est trahit-il ou non l'inspiration chrétienne? Trahit-il ou non ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut soi-même assumer par-delà même l'inspiration chrétienne, de l'inspiration biblique? Après tout, Lévinas nous dit « L'Europe, c'est la Bible et les Grecs ». Le pape le dit aussi d'ailleurs, dans sa très belle, il faut bien le reconnaître, conférence de Ratisbonne. Mais alors suivons Lévinas. Qu'est-ce que c'est la Bible et les Grecs? Alors la spiritualité grecque, nous dit Lévinas, tient d'abord dans le savoir. Il s'agit de saisir l'être dans les deux sens du terme, comprendre et prendre, dévoiler et maîtriser. Je pense, dit Lévinas, que la Bible respire autrement, apportant l'idéal de la proximité sociale comme mode originel de la spiritualité, du sensé, du sensible. Et il a aussi dans un autre texte cette définition absolument extraordinaire, éveil à l'humanité biblique, hein, l'humanité biblique, répondre d'autrui, priorité d'autrui, dissymétrie entre moi et l'autre, lui toujours avant moi, humanité comme animalité déraisonnable ou rationalité selon une nouvelle raison. L'homme n'est pas un animal raisonnable, c'est un animal déraisonnable, puisque précisément, à l'encontre des êtres dont la vocation est de persévérer dans leur être, il affirme la possibilité du désintéressement. Alors qu'il puisse y avoir des intéressements absolus chez d'autres êtres que l'homme, c'est une question que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Mais voilà ce qui nous est dit de l'inspiration biblique, dont le pape est évidemment, et Lévinas d'ailleurs inclut toujours le Nouveau Testament quand il parle de la Bible, dont le pape est un des dépositaires. Donc, et je crois qu'on peut dire que c'est cette humanité biblique, ou pour employer un langage plus catholique, cette miséricorde que le pape trahit lorsque, après l'excommunication d'une petite fille de 9 ans et de ses parents qui l'ont faite avorter, elle attendait, vous savez, des jumeaux à l'issue d'un viol et sa vie était en danger. Donc, après cette excommunication, au Brésil, le pape s'en prend, comme vous l'avez dit, à l'avortement thérapeutique. Là, on voit, me semble-t-il, ce que Lévinas appellerait l'humanité biblique, ce qu'on peut appeler la miséricorde, sacrifiée sur l'autel de véritablement une idolâtrie de la nature. Une idolâtrie de la vie au sens de la naissance, au sens purement biologique du terme. Et c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. De même, cette référence au préservatif. Le pape n'a pas à participer à la SIDAction. L'action de l'Église contre le sida n'est pas faite pour s'aligner sur la politique voulue par l'opinion dominante. Que l'Église préconise avant toute chose la fidélité, qu'elle dise que face à un fléau comme celui-là, nous devons pouvoir nous adosser à un certain nombre de principes intangibles, et que sans ces principes, nous n'y arriverons pas. Ce discours doit être entendu. Il a une certaine force. Dans un monde en proie au nihilisme, les préservatifs sont disponibles et la lutte contre le sida, très difficile. Il faut le reconnaître. Mais pourquoi vient-il lui-même utiliser ce terme de préservatif? Pourquoi vient-il à l'encontre des politiques de la santé publique mises en place en Afrique condamner cet usage en disant qu'en lui-même il aggrave le problème? Là, il me semble qu'il sort absolument de son rôle et qu'il n'est plus dans la tradition de l'Église et qu'il oublie aussi la vertu de miséricorde. Troisième, évidemment, raison de s'inquiéter, mais qui est pour moi, et je m'expliquerai tout de suite, la moins importante, l'affaire Williamson. Non, je ne pense pas que vous puissiez me suspecter d'avoir le moindre soupçon de complaisance ou d'indulgence envers cet évêque intégriste et qui plus est négationniste. En plus, il révèle l'antisémitisme de l'intégrisme catholique, et donc il donne d'autant plus raison à Vatican II, mais je dois constater que ses propos ont fait scandale en Europe et dans tous les milieux. Et là d'ailleurs, le Vatican a réagi. Le Vatican n'a pas réagi, du moins à ma connaissance, à l'excommunication de cette petite fille. Celle-ci a été rejetée par l'Église brésilienne, mais le Vatican n'a rien dit.
Là, il y a un proche du pape qui a approuvé.
Ah bah, c'est encore pire. Voilà. Donc, alors,
et qui, voilà, lui, n'a pas été désapprouvé.
Et lui n'a pas été, en effet, condamné, comme a pu l'être l'archevêque brésilien. Bon, et là, le pape, sommé de réagir, c'est vrai, et notamment par Angela Merkel, a réagi. Et l'Église, tout entière, a manifesté son horreur devant les propos de Williamson. Donc, quelle conclusion tirer de l'affaire Williamson? C'est que le négationnisme est désavoué partout en Europe, sauf dans des milieux extrêmement marginaux. Et quand je dis partout en Europe, je dis partout dans l'Europe issue, dans l'Europe chrétienne et laïque. Mais dans une autre Europe en voie de constitution, telle n'est pas le cas. Et j'ai ici le dernier numéro tout à fait extraordinaire de l'Arche, dont le titre général est « Gaza, vérité sur une guerre ». Et ce numéro extrêmement précieux rapporte les propos de Youssouf Al-Qaradawi, qui est un personnage très influent de l'islam sunnite et qui préside le Conseil européen de la fatwa. Le Conseil européen. Voilà, donc, une autre Europe parle. Et ce Conseil européen a une très grande influence en France sur l'EIF. Et que dit donc cette autre Europe? Que tout au long de l'histoire, Allah a placé les Juifs sous la coupe de gens qui les ont punis pour leur corruption. La dernière de ces punitions a été infligée par Hitler. Par toutes les choses qu'il leur a faites, même s'ils ont exagéré cette affaire, il a réussi à les remettre à leur place. C'est un châtiment divin qui leur a été infligé. Avec l'aide d'Allah, la prochaine fois, ce rôle sera joué par les croyants. Où est la protestation? Où est même la demande de protestation? La demande d'explication? Je ne l'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu. Et comme me l'a dit une amie, les propos même de Williamson, c'est de la petite bière à côté de ces propos-là qui ont un écho et qui ne sont pas désavoués là où ils devraient l'être. Donc oui, le négationnisme est un danger. Oui, le dit négationnisme mérite notre vigilance, mais ne nous trompons pas d'ennemis.
Alors, dernier sujet qu'on évoquera ce soir avant vos questions, la crise financière qui évidemment est un, nous préoccupe tous, et le véritable cataclysme de ces derniers mois. Et vous, Alain Finkielkraut, comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que vous l'analysez sous l'angle de la philosophie politique, de l'ébranlement d'un système capitaliste?
Non, moi je ne l'aborde pas parce que je n'y comprends rien. Donc, je ne peux pas l'aborder. Je ne peux pas l'aborder. Elle me tombe dessus et elle me laisse stupide. Mais je peux quand même faire quelques commentaires. Je crois que cette crise marque la défaite, disons, de l'ultralibéralisme. La période ouverte par Reagan et Thatcher au début des années 80, période, si vous voulez, de dérégulation euphorique, cette période se ferme. Nous assistons en Occident, à travers la crise, au triomphe de la social-démocratie sur l'ultralibéralisme. Le temps est revenu de la régulation. Tout le monde, tous les gouvernements occidentaux, même et surtout aujourd'hui le gouvernement américain, le disent et le reconnaissent. Cette régulation fonctionnera-t-elle de manière satisfaisante? Les mesures prises au nom de ce principe sont-elles déjà efficaces? Fallait-il en prendre d'autres? Ce n'est évidemment pas à moi à répondre à ces questions. J'en serais totalement incapable. Je prends acte simplement de cette grande mutation et j'aimerais que tout le monde le fasse. C'est-à-dire qu'on ne se raconte pas d'histoire, qu'on ne dise pas que nous vivons encore sous un régime, dans une Europe ultra-libérale. Ce n'est plus vrai. Et j'ajoute qu'en France, ça n'a jamais été vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentations dérégulatrices qui sont freinées et renversées par la crise, où l'État tend à redevenir un acteur économique majeur, où on en fait des choses qui ressemblent à une espèce de nationalisation des banques, etc. Mais la France est restée une social-démocratie. Et étant donné le type de polarisation du débat politique qu'il y a aujourd'hui, on ne le sait plus, on ne le dit plus. Et c'est absurde. Et moi, j'ai été frappé par cette réalité en lisant un livre qui n'a aucun rapport avec la crise et qui n'est certainement pas un livre d'intervention politique, mais qui est un livre extraordinaire, paru tout récemment. C'est le livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. Un livre, je dis livre parce que ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie, ce n'est pas non plus de l'autofiction, c'est une hétérobiographie. Il ne parle pas de lui, il parle de deux Juliettes. Une petite fille qui a été emportée par la vague, par le tsunami au Sri Lanka où il était en vacances avec sa compagne, et la sœur de cette compagne, une autre Juliette, qui meurt du cancer dans les mois qui suivent. Et c'est un tombeau, en quelque sorte, pour ces deux Juliettes. Et la deuxième, donc, la seconde Juliette, a été juge d'instance. Et le livre d'Emmanuel Carrère va nous expliquer, avec une précision véritablement technique, ce qu'est la vie quotidienne du juge d'instance dans la ville de Vienne, dans l'Isère. Et le quotidien, c'est quoi? Le pain quotidien, c'est quoi? Le contentieux de la consommation et du crédit. Voilà des choses que je ne connaissais pas, des choses dont l'aridité nous est absolument pas épargnée et qui deviennent absolument passionnantes. Mais nous sommes obligés de prendre acte de toutes les entorses de la loi française au principe libéral sacro-saint du contrat. il y a une loi dont j'avais entendu parler, mais dont je ne mesurais pas la signification, et tout d'un coup, je la vois fonctionner grâce à ce livre, la loi Borloo instituant la procédure de rétablissement personnel, c'est-à-dire la faillite civile. On applique désormais aux particuliers le principe de la faillite commerciale si, au vu de leur dossier, on estime leur situation irrémédiablement compromise. Ce qui est un diagnostic très difficile à poser, mais ce qui conduit à effacer purement et simplement les dettes, et tant pis pour les créanciers. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Carrère. C'est une entorse délibérée de la loi au principe du contrat. Le principe du contrat, voilà ce que serait un État purement libéral. Alors, je donne cet exemple pour dire simplement, oui, nous sommes dans une social-démocratie, nous irons toujours plus loin, je crois, dans la réponse social-démocrate à la crise. Il faut le savoir. Il faut le savoir, et je trouve que le débat politique aujourd'hui en France est indigne parce qu'il ne prend pas acte de cette réalité et que la gauche, pour exister, et parce qu'elle vit sous l'intimidation d'une extrême gauche qui est dans la surenchère perpétuelle, nous fait croire non seulement que l'ultralibéralisme règne encore, s'il a jamais régné, mais aussi que le grand coupable de la crise, c'est aujourd'hui le président de la République. Ce qui est totalement absurde, et je n'aime pas cette façon de faire du chef de l'État, d'un grand responsable politique, le bouc émissaire des problèmes de notre pays. Ce n'est pas digne d'une démocratie vivante. Le débat politique mérite mieux que ça. Alors, évidemment, en plus, si je dis ça, j'ai l'air de défendre Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, défendre Nicolas Sarkozy, pour qui que ce soit, et notamment pour un intellectuel, c'est totalement suicidaire. Souvenez-vous de la mésaventure d'Axel Kahn, est extrêmement révélatrice. Axel Kahn publie une tribune pour défendre un décret auquel personnellement je m'oppose d'ailleurs, le décret Pécresse sur le statut des enseignants-chercheurs. Le président de la République a le malheur de le citer dans son interview télévisée, et Axel Kahn est fou de terreur. Il reçoit des centaines de SMS, puisque je crois que c'est comme ça qu'il correspond, et il est président d'université, et des professeurs de cette université demandent sa démission, et il est obligé de montrer patte blanche, de dire « mais non, mais pas du tout, je n'ai aucun rapport avec ce bonhomme, il y va de sa carrière, voilà l'état des choses en France, et dans le même temps on nous dit non seulement que ce président est responsable de la crise, mais qu'en plus il établit en France un pouvoir dictatorial, puisque nous dit-on aussi il veut régner sur les médias. Je voudrais bien savoir lesquels. Elles se comptent sur les doigts d'aucune main. Donc, je pense que, si vous voulez, c'est une situation extrêmement pénible et même invivable. Parce qu'à cela s'ajoute le poids exorbitant en France de ceux qu'on appelle à tort, et c'est un abus de langage, les humoristes, qui sont des amuseurs professionnels et qui, dont l'un d'entre eux, le pire, est aujourd'hui comme sanctifié par les critiques que lui a adressées le président de la République en réponse à une chronique extrêmement virulente contre un opposant politique. Il s'agissait de Dominique Strauss-Kahn. Maintenant qu'il a été critiqué par le président de la République, il est totalement intouchable. Je vois, si vous voulez, et ça c'est très intéressant parce que ça donne la preuve que jamais le fossé entre le pouvoir politique et le pouvoir social n'a été aussi profond et aussi large. Le pouvoir politique est faible, le pouvoir social est fort, et ce qu'il y a d'indécent, c'est l'attitude qui consiste à faire prendre l'allégeance au pouvoir social pour une résistance au pouvoir politique. Et voilà ce qu'on nous demande de plus en plus et toujours davantage. Et bien entendu, on est tenté de le faire parce qu'on sera tranquille. On sera tranquille. Hein ? Eh bien, à cela, je me refuse absolument. D'abord parce que on ne sortirait pas de la crise en choisissant un bouc émissaire de la crise. Ensuite, parce que cette dévalorisation du pouvoir politique est absolument catastrophique. Pour autant, bien entendu, on doit pouvoir critiquer cette manière de faire de la politique, d'enchaîner les réformes, d'exercer un pouvoir vibrionnant, de cannibaliser les ministres. Donc il y a toute une série de griefs qu'on doit pouvoir énoncer contre le président de la République, mais je trouve la situation politique actuelle, et je trouve qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur de la crise dont la France, comme tous les autres pays du monde, est frappée.
Enfin, vous reconnaissez quand même ? Vous l'avez déjà un peu dit, mais pour aller un peu plus loin, cette focalisation sur le président de la République, elle est quand même aussi la contrepartie d'une certaine manière de s'être comporté pendant la campagne en se présentant comme celui qui allait apporter toutes les solutions avec une certaine arrogance, et puis une manière de gouverner qui est quand même assez surprenante et qui consiste à prendre la place de tous ses ministres, surtout du premier d'entre eux. Enfin, allons un peu plus loin quand même dans l'expression de cette réserve.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Là-dessus, je pense que les cernes de François Fillon me serrent le cœur. Je trouve que c'est vraiment... C'est dommage, c'est un homme politique. Et on l'a vu d'ailleurs au dîner du CRIF, un dîner du CRIF que j'ai vu à la télévision, qui était pour moi un grand moment de bonheur, parce que je me suis reconnu à la fois dans le discours du président du CRIF et dans le discours du Premier ministre. Je me sentais absolument représenté par l'un et par l'autre.
Oui, le Premier ministre, donc, qui a remplacé au pied levé Sarkozy.
Qui a pu s'exprimer, qui a pu dire « je », d'ailleurs... Avec
mais je pense qu'il disait « je » pour un discours qui avait été écrit pour le président.
Non, je ne crois pas, parce que je trouve qu'il y avait un accent...
À vérifier.
Il y avait un accent... Non, je serais prêt à parier. Il y avait un accent très républicain, au sens que Fillon donne à ce terme, au sens qui est celui de son engagement politique profond. Donc, bien sûr, je regrette absolument cette manière d'épuiser ces ministres. Je n'aime pas le rôle que jouent les conseillers. Je trouve que ce n'est pas conforme à nos institutions. Je trouve que le secrétaire général de l'Élysée a une puissance et une suffisance extrêmement préjudiciable. Et qui se retourne en plus contre celui qu'on a jugé. Qu'à juste titre, on appelle un hyper-président. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il est partout. Et évidemment, René Char a cette phrase extraordinaire, « supprimer l'éloignement tue ». Donc tous les hommes politiques, tous les responsables politiques sont tués les uns après les autres, mais on a l'impression que Sarkozy, avec cette omniprésence, va au-devant de la mort annoncée. Et c'est très dommage. Alors cela étant, je continue à trouver, puisque vous demandez d'aller plus loin, j'irai plus loin dans le mauvais sens, je continue à trouver cette polarisation sur le président de la République extrêmement agaçante, totalement ridicule, notamment en ce qui concerne la culture et la langue. Voilà maintenant que le Parisien libéré relève ses fautes de français. Et que, à très juste titre...
Et c'est vous qui vous plaignez de ça. On aura tout entendu ce soir.
Eh ben non, il suffit de m'entendre jusqu'au bout pour comprendre.
On écoute.
Merci, Lana. Un peu de tension, quand même. Non, écoutez, franchement, on essaye de défendre la langue française. On essaye, on dit, on déplore l'effondrement de la syntaxe, le rétrécissement du vocabulaire. Et quand on le fait, que vous disent les bien-pensants ? Que la langue vit, qu'on va pas vous embêter avec l'orthographe, que la syntaxe, ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup d'énergie dans la langue. Et même à l'école, on vous dit ça. Et même à l'école, on vous explique que c'est pas la peine de brider la créativité des élèves. Maintenant, Internet corrigera leurs fautes et ils pourront aller directement à ce qu'ils ont à dire. Et qu'il faut rapprocher les grands textes, au lieu des intimités avec des textes sacralisés. Alors on vous dit tout ça. Vous dites, ah bon, mais alors c'est terrible. Et tout d'un coup, les mêmes bien-pensants, s'étranglent d'indignation quand c'est Nicolas Sarkozy qui fait une faute de syntaxe et quand c'est Nicolas Sarkozy qui se moque de la princesse de Clèves. Mais que n'ont-ils défendu la princesse de Clèves au moment où elle a été évacuée de l'enseignement secondaire ?
Puisque je suis applaudi, j'arrête.
Merci beaucoup. On va passer aux questions. Donc, vous avez la parole. Il y a un micro qui va circuler. Est-ce que vous pouvez, simplement, ceux qui ont déjà une idée de questions, lever la main pour qu'on ait un peu une idée du nombre d'interventions à prévoir. Donc, le micro vous parvient. Et puis, ce serait bien de vous présenter. Et puis, on vous écoute.
Je suis un juif français, comme tout le monde ici. Et je fais un peu de mauvais sang pour la situation des Juifs en France. Je voudrais savoir connaître votre avis sur l'avenir des Juifs français en France. Et si c'est mal, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Non, là, vraiment, je suis comme tout le monde, si vous voulez, dans l'expectative. Nous avons vécu une période particulièrement dure, disons entre 2001 et 2003, 2004. Les choses ont semblé se calmer un peu, et puis on a vu, après les événements de Gaza, que ce n'était qu'un calme très relatif. Mais bon, il se pose, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la question ne concerne pas simplement les Juifs. Le Monde faisait état il y a peu d'une enquête menée dans je ne sais quel lycée ou collège. Oui, ça, c'était des SOS Racisme, je crois, qui mènent un combat dans les collèges contre les préjugés. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans certains de ces collèges, les Blancs sont désignés comme les Français. Et Le Monde avait raison de dire que c'est un préjugé. Mais c'est un préjugé qui en dit long. Qui en dit long, si vous voulez, sur les découplages qui est en train de se faire dans certaines parties de la société entre l'identité et la nationalité. J'ai peut-être la carte d'identité française, j'ai peut-être les avantages afférents à cette appartenance, mais je ne me vis pas comme français, les Français ce sont les autres. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je vois monter en France deux phénomènes conjoints aussi inquiétants l'un que l'autre, la judéophobie, pour reprendre le terme de Taguieff, et la francophobie. Il y a en France un énorme problème de francophobie. D'où ces professeurs cool et sympas qui, évidemment, ne veulent pas embêter trop vite des élèves avec la princesse de Clèves parce que ça ne fait pas partie de leur patrimoine culturel. Et je rappelle que lorsque André Santini, membre du gouvernement, oui, je critique, a supprimé les épreuves de culture générale de certains concours de la fonction publique, il a été félicité par le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, et par la HALD, l'autorité de la lutte contre les discriminations. Parce que, bien entendu, c'était une culture étrangère, extérieure, à un certain nombre de gens qui donc, enfants d'immigrés, ou petits-enfants d'immigrés, et qui donc partaient avec un handicap. Et après, on s'étrangle sur la princesse de Clèves. Alors ça va. Et donc, on voit ce sentiment de francophobie monter et ce sentiment de judéophobie monter avec lui. Et je crois que notre devoir, là, pour le coup, et c'est une nouvelle forme de franco-judaïsme, est de défendre la France et les Juifs en même temps. Ce n'est pas le franco-judaïsme triomphant, cette rencontre au sommet entre le messianisme de la Révolution et de la République et l'inspiration biblique. C'est une sorte de franco-judaïsme de compassion, pourrait-on dire, de sauvegarde et des Juifs et de la France face à cette double hostilité que les uns et les autres peuvent être amenés à rencontrer, une judéophobie qu'il est difficile de condamner, puisque précisément elle vient de gens qui ont le titre de victime du racisme, et une francophobie dont on ne parle pas, puisque l'une des formes actuelles de l'idéologie dominante en France, c'est précisément l'autocritique perpétuelle de notre identité.
Et pour poursuivre d'ailleurs sur l'autocritique et être complet, il faut dire qu'il y a une partie aussi de la jeunesse juive à qui il faudrait répéter qu'il faut défendre la France et les Juifs en même temps. C'est-à-dire malheureusement, cette expression « les Français », elle se développe aussi
chez certains jeunes juifs.
Donc il ne faut pas l'oublier non plus. Une autre question.
Oui, je vais rebondir un petit peu par rapport à ce que disait mon prédécesseur. Ma question est, par rapport à vous, donc c'est une question un peu personnelle, quels sont selon vous les critères, les, disons, objectifs sur lesquels vous baseriez pour dire qu'il est temps pour un juif de penser à ne pas rester, de penser à partir?
Un public très inquiet.
C'est à vous qu'il incombe de répondre à cette question, puisque moi je n'y réponds pas. Je ne me la pose pas. Personnellement, je ne me la suis jamais posée. Et j'aimerais que si les Juifs quittent la France, notamment pour Israël, ce soit pour des raisons positives. C'est-à-dire, le critère pour aller en Israël, c'est l'amour d'Israël. Je pense que c'est le premier critère.
Bonsoir. Je vais justement aller en Israël pour ma question. Vous avez, si j'ai bien compris, vous avez expliqué qu'on était à une période où on devait négocier, enfin, où on, Israël, lapsus révélateur, où Israël devait négocier avec le Hamas par défaut, par nécessité, parce qu'il n'y avait pas le choix, et quitte à revenir même aux frontières de 67, si j'ai bien compris.
Vous n'avez rien compris.
D'accord. Alors tant mieux.
Mais vous n'avez rien compris.
Vous...
parce qu'on est entre nous, mais vraiment rien.
J'ai une phrase comme quoi vous... Et qu'il fallait saisir cette opportunité aujourd'hui, tant mieux si j'ai mal compris, parce que ma question était justement de savoir ce qui vous faisait penser qu'ils pourraient s'arrêter là si on leur donnait ce qu'ils voulaient.
J'essayais de réfléchir à la décision de Tzipi Livni, dont l'itinéraire est extrêmement intéressant. Arik Sharon vient du Parti travailliste, il est passé par le Likoud, il a créé Kadima, qui était une espèce quand même de retour aux sources. Elle vient d'un milieu nationaliste. Elle a travaillé au Mossad, elle fonde avec Arik Sharon le Parti Kadima. Elle est ministre des Affaires étrangères pendant l'offensive de Gaza. Elle a évidemment défendu, justifié cette offensive face à des chancelleries mécontentes et à une opinion publique mondiale qui l'était bien davantage. Alors, elle gagne les élections, mais étant donné le système proportionnel israélien, elle ne peut rien faire de cette victoire. Je rappelle qu'elle a gagné ces élections parce que ce grand virage israélien vers la droite et l'extrême droite ne s'est pas réellement traduit dans les urnes. D'autant plus que le succès d'Israël Beteinu, du parti de Lieberman, c'est aussi autre chose. Et l'a donné les Russes qui habitent Ashdod, notamment, qui sont majoritaires dans la ville d'Ashdod, etc. Et puis, la composante laïque est très importante, et puis qui pose un problème particulier. Mais j'en reste à Tzipi Livni. Elle décide de ne pas se joindre à un gouvernement de coalition, alors que Benjamin Netanyahou est prêt à beaucoup de concessions pour éviter de retomber dans l'ornière de son précédent mandat. Il ne veut pas gouverner exclusivement à droite. Il sait en plus que le contexte n'est pas bon et peut-être a-t-il un peu changé. On peut toujours espérer. En tout cas, il fait pression et sur les travaillistes et sur Tzipi Livni, sur Kadima, pour qu'ils entrent dans un gouvernement de grande coalition, et donc il leur offre les meilleurs ministères. Et elle refuse. Et elle refuse en disant « Je n'accepterai que Dieu... Pour que j'accepte, il faut que le Premier ministre signe une déclaration disant qu'il préconisait la solution de deux États. » Il ne s'agit pas d'un retour aux frontières, il s'agit de la solution de deux États. Pourquoi et comment une femme politique comme Tzipi Livni en est-elle arrivée à une conclusion aussi radicale après l'offensive de Gaza et alors même que, visiblement, elle n'a aucune confiance dans le Hamas? Parce que si confiance il y avait, il n'y aurait pas eu cette offensive. Et elle n'aurait pas été aussi violente. Alors je pense, en effet, que le temps est compté pour Israël, que l'argument démographique joue et que Tzipi Livni veut sauver le sionisme d'une disparition annoncée dans un État binational que de plus en plus de Palestiniens, il y avait une tribune récente dans Le Monde, réclament. Et je pense en effet qu'elle a absolument raison. Et je ne suis pas là entré dans des considérations qui ne sont pas de mon ressort. Qui négocie avec qui, à quel moment? Il y a des hommes politiques, il y a des spécialistes géopolitiques qui peuvent répondre à cette question. Si quelqu'un comme moi le fait, c'est une plaisanterie. Je suis très sensible à ce mouvement-là. Je pense qu'il est significatif et je pense aussi qu'il est porteur d'espoir. Parce que ça veut dire que ce parti, qui est quand même le premier parti israélien aujourd'hui, a une base politique, on ne peut plus clair. Et cette clarté vient justement de ce sentiment d'urgence. J'ajoute, oui, moi en plus, j'ai d'autant moins de mal à approuver une telle attitude que j'ai personnellement toujours critiqué le mouvement des implantations. Je n'ai jamais été favorable à un retour aux frontières de 67, au nom même des arguments développés par Pierre Mendès-France en 1973, qui n'ont pas pris une ride. Je suis toujours convaincu de l'extrême vulnérabilité d'Israël, une vulnérabilité accentuée évidemment par la menace iranienne aujourd'hui. Il n'empêche, installer des implantations en Cisjordanie et à Gaza, c'est-à-dire au milieu d'une population hostile, avec pour vivre l'appui de l'armée, en exposant donc la vie des soldats, c'est moralement et politiquement désastreux. On pouvait très bien conserver des territoires pour ne pas évidemment mettre Israël à portée de missile, sans pour autant installer des implantations. Maintenant, on doit pouvoir renégocier sur les bases de l'initiative de Genève en permettant à un certain nombre de colons dont les implantations se trouvent adossées à la ligne verte de rester en Israël et en procédant à des modifications de frontières et à des échanges de territoires. Si vous voulez que j'entre dans le détail, alors oui, je vais sortir imaginairement la carte des initiatives, de l'initiative de Genève. Et je pense que de toute façon, c'est vers quelque chose comme ça qu'on ira. Personne en Israël ne parle d'un retour aux frontières de 67. Personne non plus ne parle d'une négociation directe avec le Hamas. Et certainement pas de Tzipi Livni après la guerre qu'elle a approuvée et qu'elle a menée. Non. Mais les gens les plus sensés, les plus irraisonnables, et je dirais aussi les plus humains, parce que l'humanité ne s'arrête pas aux frontières du peuple juif. Les gens les plus humains parlent de la solution de deux États.
Bonjour, je voulais connaître votre réaction au lynchage médiatique qu'a connu Israël pendant la guerre à Gaza, particulièrement la seconde partie de la guerre, et quel peut être, selon vous, le rôle des intellectuels pour y faire face.
Je ne sais pas quel peut être le rôle des intellectuels, si vous voulez. Le problème, c'est que il y a de toute façon une disproportion des forces. On ne peut à ce qui se présente comme de l'information, que voulez-vous que l'on réponde? Je n'irai pas jusqu'à parler de lynchage médiatique, mais je pense en effet qu'il y a eu une information très orientée, et je pense que l'un des grands paradoxes, c'est que Israël, en refusant de laisser entrer des journalistes à Gaza, a livré la guerre à la propagande du Hamas. Personnellement, je comprends très bien qu'Israël ait refusé l'entrée de Gaza à des journalistes. Je n'ai pas la compétence pour décider s'il devait le faire ou non. Mais je pense que cette guerre était terrible et qu'elle aurait mis la vie des journalistes en danger. Et vous imaginez ce qui serait arrivé à Israël si tel reporter de la télévision française ou de CNN avait été blessé ou tué dans la guerre. Donc, je ne prendrai pas le risque, personnellement, de désapprouver cette mesure. Mais c'était une mesure qui a, il faut bien le reconnaître, affaibli Israël. Les reporters, de toute façon, à Gaza, vivaient sous la pression du Hamas et avaient une liberté de manœuvre très relative, mais sans reporters, le Hamas a pu raconter ce qu'il voulait. Et ce que je reproche aux télévisions, c'est précisément de n'avoir pas du tout résister à cette propagande. Et d'ailleurs, elles l'ont reconnu, puisque j'ai vu, à ma grande surprise, 15 jours après la guerre de Gaza, un reportage sur France 2, je crois, qui a ouvert le journal de France 2, et ce reportage était consacré aux exactions du Hamas commises pendant la guerre. Et c'est là qu'on a appris qu'un certain nombre de bouches palestiniennes, qu'un certain nombre de thèses israéliennes étaient vraies. Oui, des habitants avaient été utilisés comme boucliers humains. Oui, d'autres avaient été blessés ou tués lorsqu'ils demandaient à des soi-disant combattants de quitter les quartiers où ils s'étaient installés pour riposter aux forces israéliennes. Oui, il y avait des lance-roquettes dans ou près des hôpitaux. Et en plus, on y a appris que tout au long de cette guerre, le Hamas s'est livré à des persécutions extrêmement violentes contre les prétendus collaborateurs et surtout contre les membres du Fatah, ce qui a été dénoncé par certains leaders de l'autorité palestinienne. Tout cela, je pense que la presse aurait dû en parler beaucoup plus tôt qu'elle ne l'a fait. Et il est regrettable que tel n'ait pas été le cas. Et même si je ne dis pas le terme de lynchage, la lecture du journal Le Monde a été très très pénible pendant cette période. Et ça m'a fait penser à mon père qui lisait Le Monde autrefois, et alors il allait toujours au début en page 3 pour lire les articles sur Israël, et il lisait le reste ensuite. Et moi, je me suis surpris à faire la même chose, mais en sens inverse, c'est-à-dire j'allais page 3, je commençais l'article sur Israël et je ne lisais pas. Donc je commençais par ne pas lire
l'article sur Israël et je continuais par ne pas lire le reste.
Une autre question, là, le micro.
Vous donnez un peu mon sentiment sur une... qui rejoint absolument ce que vous avez dit, c'est que on a l'impression que la France est en proie à un racisme anti-blanc. Et dans cette population blanche, le maillon le plus faible, parce qu'il est attaqué sur deux fronts, c'est encore le maillon juif. Donc, la judéophobie est en train de profiter du racisme anti-blanc. Je voulais, vous poser une question sur la collusion, vraiment, brun, rouge, vert. On assiste vraiment à des développements. Je ne veux pas dire que le président du CRIF était prémonitoire, ce qu'il a dit, c'est un dixième de la réalité, finalement. Et moi qui habite sur le boulevard des manifestations, je finis par me sentir otage chez moi. Comment imaginer que la France, les élus, avec les écharpes tricolores, vont manifester sous les drapeaux du Hamas et à quelques mètres des drapeaux d'Israël qu'on brûle. Alors, je sais pas comment vous voyez, parce que d'abord, je crois que pour essayer de trouver des solutions, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse, qu'on ait une position commune sur comment ça a démarré et comment on en est arrivé là. Dans ce beau pays qui est le nôtre et que nous avons défendu et que nous continuerons à défendre, mais sur quelle valeur ?
Voilà. Bien, écoutez, évidemment, c'est une question terrible que vous me posez, trop vaste pour que je puisse y répondre à une heure aussi tardive. Je dirais, vous parliez d'une coalition... Rouge-brun.
Rouge-brun-vert, oui.
Rouge-brun-vert, voilà. Rouge-brun-vert.
C'est dans le bon ordre.
Et alors évidemment, ça me fait penser à un phénomène dont il faut dire quelques mots, parce qu'en effet, il est très inquiétant. C'est le phénomène Dieudonné. Parce que Dieudonné, c'est ça, et je pense même que c'est pire. L'antisémitisme maintenant du personnage est avéré. Les journaux... le dénonce, Le Monde l'a dénoncé, L'Express l'a dénoncé, mais ce qui fait terriblement peur dans ces spectacles de la main d'or, c'est précisément le caractère composite, et si j'ose dire, métissé de son public. Un certain peuple, une certaine France, black blanc beurre, y trouve sa pâture. Alors je ne dis pas que c'est la France black blanc beurre, contre laquelle je n'ai aucune espèce de ressentiment. Mais c'est une certaine France, black blanc beurre, qui est là. C'est pire que rouge brun vert. Un certain peuple. Une coalition des ressentiments. Dont, évidemment, les juifs sont les premières cibles. La France, bien sûr, dénoncée notamment par les indigènes de la République, dans des termes effrayants, obscènes. D'ailleurs, ce mot d'indigène de la République est une indignité. Quels indigènes ? La plupart d'entre eux sont travailleurs sociaux ou assistants dans les facs. Et ils osent se prévaloir du titre d'indigène. Mais, donc, on conchit la France et on fait des juifs qui sont en tant que racistes, bien sûr, puisque la novlangue antiraciste le veut. Les juifs n'auront pas à souffrir en tant que race. Ça, c'est fini. Ils auront à souffrir en tant que racistes. Mais ça pourrait être une très grande souffrance. Et cette coalition Black Bamber a quelque chose d'absolument terrifiant, parce que, quand bien même elle serait minoritaire, et elle est minoritaire, elle est même marginale, elle est même groupusculaire, On peut dire aussi qu'elle a le vent en poupe. Et elle a le vent en poupe parce que ces ressentiments-là ne vont pas s'éteindre, la crise risque de les aggraver, et parce que, en plus, si vous voulez, on dit on voudrait que les intellectuels réagissent, que les médias réagissent, mais tout ça, toutes ces instances appartiennent à un âge révolu de notre histoire. Nous ne sommes plus dans le monde des intellectuels. Nous ne sommes presque plus dans le monde des journaux. C'était le bon temps. Nous sommes dans le monde d'Internet. Et dans le monde d'Internet, on ne peut rien faire que constater les dégâts. Qu'est-ce que vous allez ajouter votre voix à cet effroyable tintamarre où tout est nivelé, où tout est égalisé? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Enfin, si, on peut, bien sûr, on peut. Mais si vous voulez, on ne peut pas répondre dans un espace public civilisé. Car qu'est-ce qu'Internet, sinon la décivilisation de l'espace public? Et alors, des barbares dans un espace public barbare, ils n'ont qu'à se frotter les mains.
C'est une dernière question pour ne pas rester sur un constat aussi sombre, mais je garantis rien. Monsieur, peut-être en attendant simplement que le... Ah, il y a une demoiselle qui a déjà le micro, donc ce sera la dernière question. On vous écoute. Désolée.
Bon, alors, je m'excuse d'avance parce que j'avais prévu deux questions. Vous choisirez peut-être celle à laquelle vous voulez répondre. Ma première question, c'est: êtes-vous obamaniaque? Et sinon, que pensez-vous de ce phénomène? Et ma deuxième question, vous avez dit que la réaction de Mme Angela Merkel concernant les déclarations de Williamson prouver que l'Europe chrétienne et laïque était contre le négationnisme, mais le fait qu'on n'ait pas entendu de réaction du gouvernement français, qu'en pensez-vous et que pensez-vous de façon générale de la manière dont le gouvernement français traite le problème du négationnisme et de la Shoah?
Ah ben, je vais répondre aux deux. Non, ben, le terme d'Obamania existe, mais c'est pas une raison pour que je me l'applique à moi-même. Je dirais simplement que j'ai été profondément bouleversé par l'élection de Barack Obama, parce que oui, comme tout le monde, et là je crois que j'assume absolument cette banalité, j'ai trouvé extraordinaire l'élection d'un président qui était certes métissé mais qui se disait noir. Élection donc d'un président noir à la tête de la première puissance mondiale. En plus, c'était une réponse extraordinaire à l'anti-américanisme arabique qui sévit dans de très nombreux pays et dans certains espaces du nôtre. Donc j'ai été bouleversé, j'ai été ému, j'ai trouvé qu'il a mené une campagne magnifique. J'ai été aussi ému par le côté West Wing de son, vous savez, ce feuilleton La Maison Blanche, de son intronisation, du choix qu'il a fait de ses rivaux, notamment d'Hillary Clinton, pour assumer le secrétariat d'État. Et je n'ai aucune raison pour le moment de penser que ça n'a pas été un événement historique. Oui, c'est un grand événement. Il y avait quelque chose de vrai dans ce Yes We Can, cette accession en effet des Noirs à toutes les possibilités que réserve l'Amérique. Donc une intégration complète des Noirs dans le rêve américain, si vous voulez. Pour le reste, il y a bien sûr les contraintes de la société du spectacle, le couple, glamour, les machins, les trucs. Ça, c'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons et les concessions qu'il faut bien lui faire. C'est très triste, mais ça ne retire rien à la grandeur, me semble-t-il, de cette élection. Quant aux initiatives qu'il a prises, nous verrons bien, mais elles ne m'effraient pas. Je ne sais pas parce qu'il tend la main à l'Iran qu'il est prêt au compromis. Je pense au contraire que ça met les Iraniens en difficulté. Et je pense que même, et quand on revient à l'affaire de Durban, il est beaucoup plus facile, il devrait être beaucoup plus facile pour un gouvernement européen de rejoindre l'Amérique dans une position ferme, maintenant que celle-ci est représentée par Barack Obama et non plus par George W. Bush. Bien. Alors, pour ce qui est de l'affaire Williamson, je vous trouve trop sévère, décidément. Je deviens un avocat du président de la République. Mes affaires vont aller très très mal. Donc, j'interdirai toute diffusion de cette conférence. Ou alors je vais changer, après, en studio, pour dire un certain nombre de vacheries bien senties. Non, parce que j'ai entendu sa conférence, son interview. Hein. Il a été interviewé sur Williamson, ou alors je suis fou, et dans cette interview, il a dit des choses absolument, absolument définitives. Non, je crois que sur cette question-là, les gouvernements européens, les responsables politiques européens, les grands intellectuels, les autorités ecclésiastiques sont absolument sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de compromis possible avec le négationnisme aujourd'hui dans l'Europe chrétienne et dans l'Europe laïque. Et le gouvernement français ne fait pas exception. Et je ne crois pas qu'il lui revienne d'aller plus loin. C'est-à-dire, ça, c'est quand même... Maintenant, il s'agit pour l'Église de savoir comment réparer cette bourde, si bourde il y a eu. Et il s'agit pour l'Église de prendre conscience de ce que serait la réintégration de la fraternité Saint-Pie-X. Mais ça, c'est quand même pas au gouvernement français de s'en mêler.
Il me reste à remercier Alain Finkielkraut, à vous remercier à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Et puis je vous signale que la prochaine conférence de RCJ est un hommage à Claude Lanzmann, en sa présence bien sûr, le 29 avril prochain. À très bientôt.
Merci. Merci monsieur. Merci beaucoup. Quelque chose de content ?
Très bien, super.
Vous étiez content ?
Ah ouais.